C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Le confinement n'est pas totalement terminé, les vacances arrivent, autrement dit, il faut de quoi s'occuper. Et quoi de mieux qu'un roman entraînant que vous ne pouvez plus lâcher une fois commencé. Aujourd'hui, on parle du roman 4 en 4 temps qui vient de sortir avec son autrice Sylvie Bizien. Sylvie, bonjour.
Bonjour Marie, merci.
Donc avant de parler de votre roman qui vient de sortir, je voulais revenir avec vous sur votre lien avec l'écriture. Et du coup, je me demandais, c'est quoi votre premier souvenir lié à l'écriture ?
Alors, c'est, je suis vraiment pas, on va dire, culturellement... moi, je suis plus un profil scientifique à la base. À l'école, c'était les maths. Je détestais faire des rédactions. Donc, mes premiers souvenirs, c'est les rédactions à l'école primaire. Encore qu'en primaire, c'était pas si désagréable parce que c'était pas très long ce qu'on nous demandait, mais arrivé au collège, je détestais ça. Je faisais ça le dimanche soir à 10h, je commençais à m'y mettre, c'était à rendre le lundi matin. Donc je m'y suis mis très tard parce que j'ai commencé à écrire, j'avais 41 ans et je dirais qu'avant, j'aurais jamais pensé écrire un jour. Donc c'est pas un rêve de j'ai toujours voulu écrire.
D'accord.
Pour moi.
Et du coup, bon, même si ça, la réponse sera peut-être la même, mais souvent on dit que l'écriture est liée à la lecture. Même si vous aviez un profil scientifique, est-ce que vous pourriez nous parler du premier souvenir de lecture ?
Alors, mon premier livre, je sais que c'était un oui-oui. Ça a duré longtemps, ces livres-là. J'aimais, oui-oui, mais alors ce qui m'a vraiment le plus plu, et j'ai commencé à devenir passionnée de lecture, c'est Le Club des Cinq. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon roman parce qu'à un moment, il y a cinq personnages qui voyagent un peu. Et je les ai appelés Le Club des Cinq parce que c'est un petit clin d'œil à mon enfance. Et on va en parler après. Mais donc, j'ai beaucoup voyagé. Et pendant mes voyages en bateau, on est allé dans des endroits reculés où les enfants n'ont pas accès à la lecture, des îles francophones. Je donne juste cet exemple-là. C'est au Vanuatu. Ce sont des îles qui appartiennent, qui sont complètement indépendantes, mais qui autrefois étaient sous la tutelle franco-anglaise. Alors c'est particulier, c'est très rare ça. C'est-à-dire qu'ils étaient une colonie qui appartenait en même temps à l'Angleterre et à la France. C'est à tel point que les habitants à l'époque, ils ont l'indépendance depuis 1979, ils croyaient que la reine d'Angleterre était mariée avec le président de la République française. Ils n'avaient pas trop compris. C'était assez marrant. Et donc, dans ces îles, selon l'école où ils étaient, ils leur langue scolaire, sinon ils ont des patois locaux, ils en ont une centaine rien que pour leur pays, ils parlaient à l'école soit en français, soit en anglais. Et il y a moitié-moitié. Et du coup, dans les écoles francophones, c'est resté ça. Et ils ont très peu de livres. Et donc, on est parti en voyage avec plein de vieux oui-oui, de vieux clubs des cinq, le clan des sept. Enfin, il y avait tous ces noms. Et je les ai amenés et je les ai laissés là-bas. Mais c'était ceux que j'avais quand j'étais enfant. C'est assez rigolo.
Ouais, c'est un beau souvenir, c'est un beau geste. Et du coup, donc, vous m'aidez à l'écriture assez tard. Pourquoi avoir commencé à écrire ?
Alors. J'ai eu un grand changement dans ma vie qui, celui-là, était un rêve d'enfant. C'est en 2010. Donc, j'avais 40 ans, je suis pas toute jeune. Et quand j'étais étudiante, comme vous êtes, j'avais un rêve qui avait même commencé avant, qui était de faire un tour du monde en voilier. Alors, c'était un peu un rêve un peu fou parce que entre le rêver et le mettre en chantier, il y a tout un pas. Mais comme quoi, je suis la preuve que ça peut arriver de mener au bout un tel projet. Et donc, en 2010, je suis partie avec mon mari et mes trois filles qui avaient quand même 6 ans, 9 ans et 12 ans. Elles étaient encore jeunes. Et on est parti faire un tour du monde en voilier pendant 3 ans. Et la nuit, en fait, on est en mer. Pas tout le temps, mais presque un tiers du temps, on est en mer la nuit. Parce qu'un tour du monde, c'est très, très long. Et puis on va pas aussi vite que ceux du Vendée Globe surtout. Et la nuit, donc je pensais un peu à tout ce qu'on vivait. Je disais c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit. On avait fait un petit blog avec des photos pour partager, mais avec nos petits groupes d'amis et la famille. Mais je me suis dit, oh, ça serait quand même bien de partager au-delà de ce petit groupe sur notre voyage. Mais j'en parlais avec mon mari, il dit, pas question que j'écrive un récit sur notre voyage. C'était trop rentrer dans l'intimité de la famille. Les enfants, après, ils allaient grandir, ils ont pas envie qu'on leur raconte leur histoire comme ça sur la place publique. Du coup, c'est en la nuit, comme ça, je regardais et je me dis, tiens, mais pourquoi pas en faire un roman? Parce que j'avais vraiment envie de partager ça. C'était, en fait, c'est parti de l'envie de partager des sensations, des émotions et des rencontres, parce qu'on a fait vraiment des rencontres un peu hallucinantes. Et donc, l'idée est venue, et puis j'étais vraiment pas sûre de moi, parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en moi-même. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais écrire la nuit discrètement. Personne n'était au courant. Il y a juste ma fille aînée, Nina, qui a eu un moment, elle m'a surpris. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Elle s'est levée dans la nuit parce qu'il y avait eu un grand bruit. Elle vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es sur un papier, un carnet, là, qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'ai avoué que j'étais en train d'écrire un livre. Et donc, j'ai repris la trame de notre voyage et je l'ai fait vivre à un personnage complètement fictif. Et justement, c'est ma fille qui a trouvé le nom du personnage, il s'appelle Luna, ça vient de Luna Lovegood dans Harry Potter. Et c'est vrai qu'elle est géniale, cette fille-là. Et donc, c'est une femme qui part seule sur son voilier, faire un tour du monde, elle plaque tout parce qu'elle déteste sa vie et elle n'en peut plus, elle est parisienne, elle bosse comme une dingue, elle n'est pas du tout dans ce qu'elle avait rêvé étant étudiante, justement. Donc, elle plaque tout et elle part. Il lui arrive le voyage tel qu'on l'a vécu. Elle rencontre des gens comme on l'a vécu, mais elle, ça va un peu plus loin parce qu'elle, c'est une femme seule, donc il va lui arriver des histoires d'amour, il va lui arriver des petites anecdotes qui, elles, ont été inventées. C'est le côté romancé. Mais sinon, je raconte les rencontres qu'on a pu faire. Je parle de l'Afrique du Sud, par exemple, parce qu'elle passe pas mal de temps en Afrique du Sud. Je parle du Brésil. On a rencontré des gens un peu hallucinants aussi au Brésil. Donc ça, c'est dans le premier roman. Et en rentrant donc du voyage, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, mais alors j'avais vraiment pas les codes. J'aurais dû me rapprocher justement des gens qui font des études dans le domaine de l'édition. Ça, je sais que ça existe. Et donc j'avais même pas en pensé envoyer un résumé. Moi, j'ai envoyé brut en A4 imprimé comme un rapport de stage, exactement. Et zéro succès. Un seul m'a répondu avec une remarque qui me prouvait qu'il avait lu en me disant « c'est pas mal, mais il manque ceci, il manque cela ». Donc, j'ai tenu compte un peu des conseils et puis je l'ai auto-édité. Ça, c'est accessible à tout le monde, en fait. Parce que à Brest, c'est facile. Il y a un imprimeur qui est au porte-commerce, West Helio. Ce n'est pas de la pub parce que j'ai pas des prix spécialement, mais c'est accessible à tout le monde, en fait. Quelqu'un qui écrit, même il n'y a pas besoin d'écrire 400 pages à chaque fois, mais ils ont des procédés de production assez simples et assez économiques qui peuvent faire des petites quantités. Donc, quelqu'un qui, parmi vos amis, là, à la fac, aurait un projet d'écrire, faut pas hésiter à se lancer, puis commencer petit. On peut en commander. Moi, j'en commande des fois 30. Et ça évite d'avancer parce que c'est un budget quand même. Mmh. On peut imprimer et avoir pour 5 euros le livre. Ça dépend des quantités, quoi. Et donc après ça, je suis restée presque 5 ans sans rien faire. Alors, bon, sur le premier livre, il a fallu que je me batte puisque j'étais toute seule. Je faisais des dédicaces dans les espaces culturels qui sont très accueillants pour les gens qui sont auto-édités, qui se débrouillent tout seuls. Dans certaines librairies indépendantes qui avaient aussi la gentillesse d'accueillir au minimum mon livre et des fois m'accepter en dédicace. C'était des moments géniaux parce que c'était de l'échange. Donc, faut vendre son livre. C'est tout un autre style. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis scientifique, mais pas commercial du tout. Mais c'était intéressant de discuter avec les gens, d'expliquer qu'est-ce qu'on veut faire à travers un livre, partager sur le voyage, puisque le livre parlait que de voyage. Et donc, ça m'a pris presque 2 ans, cette phase de commercialisation, on va dire. Et après, complètement à sec, j'ai incapable, et je ne pensais plus jamais écrire. me suis dit, bon, bah, c'est une parenthèse. Il y a eu un voyage, il y a eu un livre. Ça s'arrête là. Et ouais.
Bah, je vous coupe peut-être maintenant, ouais, pour parce qu'on parlera du deuxième livre évidemment après et un tout petit peu du premier juste après. Je voulais savoir parce que donc là, ce que vous expliquez, c'est que c'est, enfin, ce premier livre est inspiré entre autres par donc le tour du monde que vous avez fait. Mais là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des anecdotes, des choses qui ont été romancées, que vous n'avez pas vécues. Comment viennent ces anecdotes? D'où viennent les idées?
Bah, je sais pas. C'est dur à expliquer. Parce qu'en fait, ça vient un peu tout seul. Et par contre, quand ça vient, ça transporte. J'ai vraiment l'impression, quand j'ai écrit le deuxième, ça m'a fait ça aussi. C'est plus récent, donc c'est vraiment présent dans ma mémoire, la sensation de quand on écrit et quand les idées viennent, c'est au-delà du plaisir qu'on reçoit quand on lit un livre, que ça nous transporte dans un autre monde, un autre univers. Et ben, quand on écrit, c'est pareil, on part dedans. Et alors, le premier, je l'écrivais la nuit en mer, j'étais toute seule, donc je vivais ce que je racontais, mais les idées venaient comme ça. Enfin, et c'est pourtant astreignant parce que j'avais que les créneaux je m'imposais de n'écrire que pendant les créneaux de nuit et en mer. Donc ça veut dire que des fois on pouvait rester, comme on a fait par exemple un mois en Australie. Pendant un mois, on n'a pas été du tout la nuit en mer. Donc pendant un mois, pause, et je reprends la première nuit en mer, ça y est, ça sort. Et ça sort. Alors ça, faut dire aussi que je continue à y penser entre deux, mais sans spécialement noter, voilà, on baigne un peu dans l'atmosphère de notre personnage en dehors, mais au moment où on s'arrête pour écrire, c'est un peu de la rigueur, parce que c'est quand je m'y mets, je fais pas autre chose. Mais ouais, ça vient. Je pense que je m'appuie beaucoup sur quelque chose qui, c'est un peu, je sais que les musiciens, ils disent ça, tout s'emmagasine dans la tête, et à un moment, ça ressort, quoi. Et des fois, on dit, y a du plagiat, mais c'est pas du plagiat, c'est qu'un jour on a lu ça, ça s'est gravé dans notre cœur interne, et après ça ressort un jour. Donc c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait une phrase qui ressemble à une autre phrase, parce qu'on a tout, et on compile tout ça dans notre tête, en fait, et ça sort. C'est plaisant. Et des fois, parce que moi j'écris à l'ancienne, hein, avec mon papier, mon crayon, des fois ça va pas assez vite. Je voudrais écrire plus vite, et après j'arrive même plus à me relire. Voilà.
Et justement, tout à l'heure, vous parliez des sensations que ça vous procure. Qu'est-ce que ça, enfin là, avec du recul un peu, qu'est-ce que ça vous a apporté l'écriture dans votre vie en termes de d'émotions?
Voilà, parce que ça n'apporte rien sur l'aspect financier ou vraiment quasiment rien. Les gens savent pas toujours, mais quand on est auto-édité, finalement, on fixe un peu son prix. Mais si on le fait trop cher, comme on est auto-édité, personne va acheter. Donc, on réduit au maximum le prix. Et un livre qui est édité, on touche 10% du prix. C'est vraiment rien. Donc, c'est sûr que l'enrichissement n'est pas financier. Par contre, il y a un enrichissement personnel. C'est une fierté d'avoir mené au bout son projet. Ça, c'est un peu le ressenti aussi quand on fait des études et que on arrive. On s'était fixé une licence ou un master et qu'on arrive, rien que le fait de l'avoir fait. On a dit qu'on allait faire, on l'a fait. Bon, c'est pas tout le monde. Il y en a plein qui abandonnent. Ils ont tort d'ailleurs, faut jamais abandonner. Et il y a déjà cette satisfaction. Et quand, pour mon deuxième roman, quand on réussit en plus à trouver un éditeur, parce que c'est un parcours laborieux, mais je pense que grâce aux nouvelles technologies, on peut maintenant transmettre, parce que c'est coûteux d'imprimer un manuscrit. Et maintenant, il y a plusieurs maisons d'édition qui autorisent à ce qu'on leur adresse un fichier PDF. Quand même, on est en 2020. Je trouve ça un peu plus facile. Et du coup, on peut solliciter plus de maisons d'édition que je ne pouvais le faire, parce qu'à l'époque où j'ai fait pour le premier, on pouvait jamais envoyer de PDF. Maintenant, on peut. Et puis maintenant, les maisons d'édition sont moins dans des standards. Les gens ont un petit peu, enfin moi c'est ce que m'a dit mon éditeur, ils sont moins. Tout le monde veut avant acheter son Lévy, son Musso. Maintenant, les gens ont envie de changer. Ils veulent un peu de style qui varie. Et c'est pas grave si c'est pas un écrivain qui va en faire 50. l'éditeur va quand même investir, même si c'est que pour un livre. Après, il sait que chaque écrivain doit aussi s'investir pour vendre son livre, ce qui se faisait peut-être pas autant avant aussi. Donc, c'est un peu cette satisfaction, voilà, réussir à mener à bien un projet. Et puis, quand on finit par avoir le livre dans la main, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'enfant, mais ça fait la même sensation que quand on a un enfant. Donc, j'ai trois filles. Et puis j'ai deux bébés, c'est mes deux livres. Et ça fait vraiment ça, parce que le jour où il sort et que vous l'avez dans la main, eh ben, il n'est plus chez vous qu'à vous, il devient public. Il commence, ça me fait bizarre, parce que là maintenant, il est sorti le 7 novembre, les gens m'en parlent, ils me disent « Ah ouais, ah tiens, j'ai compris ça, ça m'inspire ça ». Ouf, et ça me fait là, il rentre dans mon intimité parce que c'était 2 ans de moi et de moi en fait. Donc, et c'est alors écrire, c'est aussi un grand moment justement où on est seul avec soi-même et on apprend à se connaître. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître et on dit tiens ouais ça m'émeut ça. Et du coup, on partage aussi dans un livre sur les émotions qu'on a vécues. Et donc, on s'en rend plus compte, finalement, ou les gens qu'on a aimés. Parce que dans le livre, j'évoque un peu les histoires de personnes qui m'ont ému ou que j'ai adoré. C'est mes grands-mères, mes grands-pères. J'en parle. En fait, c'est des que je leur fais. Je leur rends hommage. C'est pas un livre pour rendre hommage, mais j'en profite. Donc, mes personnages, des fois, les gens me disent, mais alors, t'écoutes tout ce qu'on dit, tu notes tout. Oui, c'est pas exactement ça, mais je m'inspire un peu de tout le monde autour de moi. Et donc, c'est un moyen aussi de leur montrer que je les aime, finalement. Donc, je m'inspire de mon mari. Dans l'histoire, par exemple, à un moment, il y a un couple qui se rencontre. C'est un peu inspiré de ma première rencontre avec mon mari. Il y a des histoires sur les enfants, c'est inspiré de mes filles. Mes grands-mères, des collègues, parce que je suis prof. Il y a dans un collège, là, et je m'inspire de copines qui sont profs, parce que j'ai un de mes personnages qui est prof. J'ai une de mes personnages, donc celle qui est prof, elle s'appelle Chelsea.
Donc je précise juste que c'est dans le deuxième livre, ça, hein, pour les personnes qui nous écoutent.
Je parle du deuxième livre. En fait, le deuxième livre, il s'appelle 4 en 4 temps, mais c'est mon directeur littéraire qui a d'ailleurs fait la couverture. Il a énormément de talent, mais il a aussi changé le titre. Alors ça, c'est perturbant.
C'était justement ma question, c'est comment on choisit un titre qui résume le livre, quoi, pour pas trop en dévoiler, mais que ça donne envie quand même, quoi.
Donc ça, c'est un talent propre à un directeur littéraire. Et moi, en fait, j'ai fait différemment. J'ai commencé à l'écrire, j'avais le titre. Et en fait, je me suis dit, ça va être, comme j'écris l'histoire de 4 femmes, c'est 4 en 4 temps, ça vient de là. C'est 4 femmes et ça s'étale en gros sur 80 ans. Et en plus, on parcourt le monde parce qu'on voyage grâce aux 4 personnages, on va partout dans le monde. Et je m'étais dit, comme je l'ai fait s'intercaler, c'est-à-dire qu'on passe de Pénélope ça commence avec Pénélope en 43, après on passe à Chelsea en 1954. Elle est brestoise, elle habite dans les baraques qui ont été construites après la guerre. Après on repasse à Pénélope, après on arrive à Mélène en 1981, c'est la troisième personnage, et plus loin on finit avec Baya. Et du coup ça passe tout le temps de l'un à l'autre, et je me suis dit « oh là là ». Moi, si je lisais un livre comme ça, je finirais par m'y perdre. Alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui se comprenne. Et donc, j'ai cherché des prénoms qui forment un nom quand on prenait la première syllabe de chacun. Et donc, Pénélope, après c'est Chelsea, donc ça fait Pêche. Et après, Mélène, Mel et Baya. Bon, alors, ça fait des prénoms un peu strange, là, mais... C'était pour faire Pêche-Melba. Alors, quand il m'a enlevé mon Pêche-Melba,
Ce qui est très drôle, c'est que je crois que c'est dès la première page, ou en tout cas dès ce premier chapitre, où il y a la mention des Pêche-Melba tout de suite. Quoi.
Oui. En plus, le clin d'œil, c'est le premier mot, ouais, tout à fait. Le premier mot, c'est Pêche-Melba pour ces demoiselles. Donc ça, voilà, je l'avais introduit mon titre, bon, il en a pas voulu, mais j'en parle quand même parce que ça aide quand même le lecteur à bien comprendre et à passer de l'un à l'autre en disant ah oui c'est laquelle celle-là, ah oui Chelsea la deuxième, ok. c'est ça que j'avais pensé. C'est un peu un moyen mnémotechnique comme on dit. Pénélope la plus ancienne, elle est couturière, elle est elle c'est pendant la guerre, hein, ça se passe. Donc ça s'inspire de ma grand-mère qui a vécu dans un hôtel qui était réquisitionné par les Allemands. C'était pas très drôle. Elle a même fait un mois de prison. Après Chelsea, c'est une prof de maths, mais elle va être mutée un peu partout. Elle va partir en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc elle voyage avec des mutations professionnelles en fait. Et puis liée à son mari qui travaille à l'Ifremer à Brest. La troisième, Mélène, elle est de Nouvelle-Calédonie. Elle va faire beaucoup de bateaux et elle va transporter des passagers payants. Elle en fait son métier en fait. Elle transporte les gens dans les îles, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, la dernière, bah, c'est elle qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. C'est Baya et elle est sous-marinière. Et en fait, c'est récent, c'est en 2018 que les femmes ont eu le droit d'être marquées. Et c'est en lisant un article dans le Télégramme que bon, ça a commencé à faire son petit chemin. Je dis, tiens, ça mériterait d'écrire un roman sur une sous-marinière, parce que comme ça n'existait pas avant. Et après, j'étais en voyage en voiture. Et là, cette femme. Ouais, la trame m'est venue de faire ces quatre personnages et de faire s'entrecroiser les personnages. Et peut-être, à un moment, un lien pourrait découvrir peut-être quelque chose en allant jusqu'à la fin du livre sur ces quatre personnages. Pourquoi ces quatre personnages? Donc ça m'est venu en une nuit. Comme quoi, j'ai besoin de la nuit pour créer.
C'est assez chez les écrivains. Il y en a beaucoup qui écrivent la nuit.
Ouais. Parce qu'en fait, on a besoin de ne pas être dérangé par un facteur qui vient livrer un colis ou par un coup de fil ou pas être sollicité par son téléphone. Voilà. Donc, on a besoin de rentrer dans notre bulle, hein, on dit ça.
Et on fait une pause musicale en écoutant Marche ou rêve de Oshi.
Tirons des plans sur la comète. Affilé haut comme des étoiles. J'aimerais que le temps s'arrête. Sur mon vélo, je perds les pédales. Parfois je m'ennuie comme un rat mort. Puis quand ça ne va pas, je souris. Et si la nuit me combat, je sors insoumis face aux insomnies. Marre de la poudre aux yeux, j'en fais une allergie. J'en ai marre des adieux. C'est si beau d'être en vie. Marche ou rêve,
Locale sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était Marche ou rêve de Oji. On est toujours en compagnie de Sylvie Bizien pour parler de son roman qui vient de sortir et qui s'intitule 4 en 4 temps. Pourquoi 4 femmes? Pourquoi pas des hommes? Pourquoi vraiment des femmes en tant que personnage central? Est-ce qu'il y a un côté peut-être un peu féministe derrière ça, de mettre en lumière des femmes, ou est-ce que c'est un peu du hasard?
Non, c'est pas du hasard. Ouais, alors, le côté féministe, en fait, moi, je suis d'avis que, alors, je sais que la place des femmes n'est pas simple, mais je sais que, enfin, moi, je le ressens en disant, ben, arrêtons de parler, de râler sur le fait que, oui, ils ont ça. On a tellement de choses qu'eux n'ont pas déjà, et essayons de faire plutôt. De tirer une force de notre féminité, parce qu'on a quand même plein de choses. C'est tellement, on peut être féminine sans rien faire, et on peut être plus féminine en se maquillant ou en mettant des tenues plus féminines, ou moins. Nous, on a une graduation. Les hommes, eux, ils ont pas être plus masculin, c'est plus compliqué, je trouve. Enfin, nous, on a une chance énorme, et on peut faire la même chose. Et le dernier bastion qu'il y avait, c'était les sous-marins, parce que pompiers, les femmes peuvent faire, militaires, ils ont les femmes, ça fait longtemps qu'elles peuvent le faire. Et le seul endroit où on pouvait pas, c'était. Et pour moi, c'est en 2018 là, quand ce bastion, ça a été décidé avant. C'est notre Breton Jean-Yves Le Drian qui était à l'époque ministre de la Défense, qui a décidé sous une certaine pression. Forcément. Mais pour moi, c'était ça, le déclenchement, c'est le dernier bastion réservé aux hommes. Bah, ça y est, il n'est plus. Et donc maintenant, arrêtons de se plaindre. On peut faire tout pareil, il n'y a rien qui nous interdit. Il faut se battre, parce qu'il faut toujours se battre. Mais les hommes aussi, il faut qu'ils se battent. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté féministe. Et surtout parce que ces quatre personnages sont forts. Ils sont des femmes qui, même Pénélope, elle a 20 ans en 43. Elle a une force de caractère, elle n'est pas effacée derrière un mari. Alors qu'à cette époque-là, une femme n'avait pas, par exemple, n'avait pas de chéquier. Enfin, je ne sais même pas s'il y avait des chéquiers juste après la guerre, mais en tout cas, une femme n'avait pas accès à ses. Si elle travaillait, elle n'avait pas accès à son salaire. C'est son mari qui touchait son salaire. Enfin, c'est fou d'où on vient. Mais ça ne les empêchait pas de prendre leur destin en main. Et c'est un peu ça que je veux mettre aussi, que. Il faut qu'on arrête de s'apitoyer et qu'on aille de l'avant. Parce que c'est comme ça qu'on. Et qu'on n'accepte pas, de nous rabaisser. Voilà, c'est un peu ça le message aussi. Donc les femmes, là, sont fortes. Elles vivent des moments pas drôles. Les quatre personnages, je sais pas, elles n'ont pas que du rose. Mais elles se battent, elles encaissent et elles continuent.
Oui. Et sur ça, ce que donc tout à l'heure, encore une fois, vous décriviez les personnages, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu un peu, il y a certains personnages qui sont inspirés de vos grands-mères, grands-pères, de votre histoire familiale. Mais concrètement, comment les personnages ont les construits? Parce qu'il y en a quatre, comme vous le disiez, à différents endroits du monde, à différentes époques. Comment on construit? J'imagine que c'est un travail de documentation qui est énorme.
Oui, alors, donc le. Je disais tout à l'heure que donc dans une nuit, j'ai eu la trame, j'ai eu l'idée des quatre personnages, de les faire voyager, de les faire le lien qu'il pourrait y avoir. Et en fait, après, j'ai écrit sur des petits carnets la trame pour chaque. C'est vraiment un petit carnet, hein, ça rentre dans un sac à main, quoi. Ça a pris une semaine. Presque 3-4 heures par jour, quoi. Parce que j'étais en vacances et là j'écris l'année que je voulais écrire, le personnage, l'année, et puis les grandes lignes de ce qui allait lui arriver et les endroits où elle allait passer. Et j'ai fait aussi un tableau croisé là avec les personnages et les lieux pour pas faire trop de redites, dire tiens, mais on n'arrête pas de parler de ce pays-là, non, on change. Et puis parce que j'y avais des endroits, je voulais en parler. Est-ce que je m'inspire aussi dans certains moments de notre voyage? Donc c'est un peu le complément du premier livre, parce que le premier livre, comme c'était une femme qui faisait un tour du monde seule il y a des endroits où c'est impossible d'aller. C'est-à-dire qu'on ne s'aventure pas, enfin, ça serait pas crédible. Mais nous, on y était allés. Donc, je me suis dit, là, c'est dommage, j'ai même pas parlé de ça. Je parle, par exemple, des Indiens Kuna, des San Blas. Là, je regardais, j'ai fait ma trame, j'ai dit, il faut que je parle des Indiens Kuna, des San Blas. C'est au large du Panama. Ce sont des gens qui vivent. Ils ont pas l'électricité. Ils ont pas l'eau courante. Ils sont super heureux. Ils sont super gentils. Et ils vivent, mais à 30 centimètres de l'eau, parce que c'est assez, alors, premier abord, on dit, waouh, c'est ça. Alors, comme ils sont complètement à l'ouest, au Panama, côté Atlantique, ils récupèrent tous les déchets qui leur sont, c'est dégoûtant, hein, et qui leur vient, ben, des Caraïbes, et voire, enfin, ça tourne un peu, là, dans un tourbillon, dans les gens de l'Ifremer seraient spécialistes pour expliquer. Mais eux, ils se récupèrent des tonnes de déchets plastiques. On voit de tout. J'ai même vu une façade de lave-vaisselle. On commençait à arriver là, ça flotte. Des poupées Barbie. Alors, ça, plein. Alors, démembrées, hein, par contre. Et des tongs. Alors, des tongs. Mmh. Des claquettes par milliers, des havaïnas, là. En fait, ça, c'est parce que les gens, ils les perdent en marchant sur la plage. Je pense que c'est ça. Et donc, et des bidons de lessive. Donc ça, ils récupèrent tout ça et en fait, ils font un peu du remblé sur leur... et ils complètent un peu sur le corail, ils font du remblé et ils construisent là-dessus. Après, ils mettent un peu de terre et ils font leur maison. Donc, ils sont à 30 cm de l'eau, c'est impressionnant. Alors eux, le réchauffement climatique, ils pourront pas rester là, ça c'est certain. Et à côté de ça, ils ont des petites îles... Et c'est les îles, comme on voit les îles sur les cartes postales, quand ils mettent des îles paradisiaques avec le cocotier là qui penche bien vers la mer, l'eau super turquoise. Bah c'est chez eux ça en fait. Mais donc ils ont, il y a deux côtés, c'est marrant parce qu'on dit waouh la beauté des îles et de la noix de coco là, qui tombe. Et à côté, quand on regarde de loin, on est en mer, on voit ces maisons qui sont bien, c'est très compact, hein, c'est très dense leur habitat. Et puis quand on se rapproche, on dit ah ouais mais ils sont sur un tas de déchets en fait. Bon, c'est comme ça. Et donc ils vivent vraiment dans une façon de vivre qui ressemble à notre Moyen Âge, avec quand même des vêtements parce qu'ils reçoivent quand même certains dons. Et donc ils sont habillés comme nous avec des vieux t-shirts un peu percés. Comme il fait très beau, ça suffit un t-shirt et un short. Au Vanuatu, c'est un peu ça. Donc des gens qui vivent aussi de manière très archaïque. Et les Papous, ça c'était rigolo, les Papous, c'est en... Donc la Papouasie, c'est au nord de l'Australie, c'est dans le prolongement un peu de l'Indonésie. Ils ont des petites îles que personne ne visite. On arrive devant une île comme ça, alors il a fallu passer une barrière de corail. Et puis bon, on jette l'ancre, on était déjà bien contents d'arriver là, on avait mis 5 jours pour arriver là. Et puis là, il y a un bonhomme qui arrive dans une petite pirogue en bois, là, creusée dans un tronc d'arbre, en fait. Il arrive, et puis, bon, il avait une tête un peu patibulaire. D'un coup, il nous fait un grand sourire. Toutes ses dents étaient rouges sans quoi. Waouh! Première impression, ça jette. Hein. On se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il mange, lui, pour avoir ça? Alors, on a su après qu'ils font... en fait, c'est un peu leur coutume. Ils mâchouillent, mais à longueur de journée, les enfants, les adultes, tout le monde. Donc, tout le monde a les dents rouges. Un espèce de mélange de baies rouges avec de la poudre de corail. Ils mâchouillent ça à longueur de journée, ça les apaise, ils aiment bien. Et du coup, ils ont tous les dents, les gencives rouges sang. Et donc, le monsieur, il nous accueille, il avait un espèce de carnet, il nous a demandé de le remplir. On est resté presque une semaine avec lui tellement c'était extraordinaire aussi cette île. Et il dit, ah ouais, mais nous, des voiliers, on en voit plein. Regardez le carnet. Il me montre son carnet. Il dit, à chaque fois qu'il y a un bateau qui vient, on va le voir, sachant qu'on peut y aller qu'en bateau. Il avait 12 bateaux en 20 ans. Donc, ils n'ont pas souvent de la visite. Et c'était pratiquement que des Australiens en plus, parce qu'ils ne sont pas très loin de l'Australie. Et pareil, ils vivent. Donc, lui, on lui parlait. Et en fait, c'est même lui, il nous a dit, une fois, il y a un gars qui est venu et puis il parlait dans une boîte noire et puis il y avait quelqu'un dans la boîte. Il a mis du temps à comprendre. En fait, il nous parlait d'un téléphone portable. Alors, ouais. Alors, okay, nous, on se dit, tout le monde se dit, ouais, ils n'ont pas de téléphone portable, évidemment. De toute façon, ils n'ont même pas d'électricité. Donc, comment ils rechargeraient? Cela dit, téléphone portable s'étend énormément parce qu'il y a beaucoup de pays où ils ont des cartes prépayées. Là. Mais il faut pouvoir recharger. C'est tout le temps leur problème, en fait. Donc, ouais, on a vu des gens... ça, je ne pouvais pas ne pas parler d'eux. Donc, j'en parle. À un moment, la navigatrice, elle va aller les voir, les papous. Je dis, c'est pas possible que je ne parle pas des papous. Il faut que les gens sachent qu'il y a des papous adorables avec des enfants formidables qui font du bateau avec leurs voiles. C'est des bâches comme on a, nous, pour les camions. Des bâches bleues, là, avec des anneaux. Eux, ils font de la voile avec ça. Et ils marchent bien. Hein. Ils remontent dans des courants. C'est des champions. Donc, on dit, waouh, il y a des gens... ça nous fait comprendre qu'on peut vivre avec beaucoup moins que ce qu'on a à Brest. Hein.
Ouais, donc ça fait une bonne inspiration. Et je me demandais aussi, parce que donc il y a quand même une partie du livre avec un personnage en particulier qui se passe dans le Finistère. Si je me trompe pas, alors je sais pas si vous êtes originaire du Finistère ou si vous y avez vécu, mais je me demandais à quel point c'était important d'en parler et d'intégrer le Finistère et notamment Brest ou des villes comme Concarneau, etc., au sein de votre roman.
Déjà parce que, alors moi je suis brestoise et j'ai fait le lycée de Guiroise. Et après, j'ai pas été à l'université, j'ai fait ce qui s'appelait l'ENSIETA, qui s'appelle maintenant l'ENSTA Bretagne, qui est quand même dans le voie de réseau. Donc, je faisais toutes les fêtes du jeudi soir. Il n'y a plus, mais ça va revenir. ouais, Brest, c'est. Il faut peut-être y être né pour l'aimer, mais moi, j'adore cette ville. Je trouve que. L'ambiance dans les bars, dans les restos à Brest ou dans les boîtes qu'on pouvait y aller, c'est génial. Il n'y a pas ça partout. Pendant mes études, il y avait, comme vous avez à l'UBO, il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs. Tous les gens qui venaient d'ailleurs ont gardé un souvenir. La plupart continuent à manger du beurre breton, pas du beurre salé. on peut pas revenir en arrière. Ceux qui venaient vraiment dans la Bretagne. Mais ouais, c'est une ville tellement attachante. Et puis, Brest a une histoire. Enfin, les gens qui disent oh, c'est moche et rectiligne, ils disent ouais, ben, peut-être, mais on n'a pas choisi d'être bombardé. C'est pas de notre faute, quoi. Voilà. Et c'est peut-être parce que justement, notre ville, elle est un peu froide, elle est un peu Allemagne de l'Est ou carrément la Russie, là, que quand on regarde la mairie, on dirait un truc russe. Mais c'est peut-être parce que c'est si froid que le cœur des Brestois est si chaud à côté. Il y a de l'ambiance à côté. Et Concarneau, j'y ai mes attaches parce que ma grand-mère et ma mère sont nées dans la ville close. La maternité était là. Donc, j'ai beaucoup d'attaches avec Concarneau. J'ai beaucoup d'attaches avec Camaret aussi, où mes autres grands-parents vivaient. Voilà, donc le Finistère. Puis les gens qui parlent du Finistère qui n'en sont pas, ils l'adorent. Ceux qui ont poussé jusque-là, parce qu'on n'y vient pas par hasard aussi. Hein. Il faut vouloir. Quand on roule un peu, on arrive à Nantes, on dit « ouais, on est arrivé ». Non, il y a encore 3 heures de route quand même. Ouais, on ne vient pas par hasard, mais les gens aiment bien y revenir, ceux qui ne sont pas ici. Les amis étudiants, là, ils demandent que ça, de revenir ici. Donc, c'est, ouais, ça fait partie de mon cœur. Donc,
c'était important.
Ouais, c'était important, ouais.
Et donc tout à l'heure, vous parliez de l'histoire de Brest. Et justement, moi, c'est une de mes questions, c'est que donc ça passe à différentes époques, même si c'est assez rapproché, parce qu'en soi, on peut dire que tout se passe en un siècle. Pourquoi ces époques-là? Pourquoi pas faire le choix d'avoir des personnages qui soient dans des espaces-temps qui soient vraiment plus éloignés?
Je pense que c'est lié, parce que au départ, je pars de ce que je connais. Et après, c'est vrai que vous m'avez posé la question tout à l'heure. Après, je fais des recherches. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros boulot de recherche. Mais je pars pas de rien. Je pars de quelque chose. Par exemple, je parle de l'Océan de Liberty. C'est un bateau qui a explosé dans la rade de Brest. Là, c'était hallucinant. En 1947, on sort de la guerre. Tout est détruit déjà. Ça commence enfin à reconstruire un peu. C'est un peu comme au Liban. Et ça commence à aller mieux, et puis d'un coup, pof, et il y a eu des dégâts énormes. Et maintenant, comme j'en ai reparlé, il y en a plein qui me disent « Ah ouais, mon père, il était dans une poussette sur une terrasse, il a failli mourir parce qu'il y a un morceau de tôle qui est tombé. » Enfin, tout le monde a un peu… les Brestois de cette époque-là sont presque tous des rescapés de cette explosion. Et du coup, voilà, je suis partie de cette histoire que je connaissais parce que mon père m'a parlé d'un cousin à lui qui en est mort. Donc voilà, je pars de choses que je connais. Après, je creuse pour pouvoir en parler avec des sources sûres, parce que ouais, je me méfie un peu on m'a dit que voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie uniquement de l'histoire depuis 1943 en fait. Mais ouais, pourquoi pas plus tard écrire sur des périodes plus inconnues. Je suis pas une bête en histoire.
Oui, après ça s'apprend, hein, mais.
Là, ouais.
Et je me demandais aussi, donc il y a quatre personnages principaux, quatre femmes. Pourquoi faire le choix d'un roman à quatre voix qui sont vraiment entremêlées et pas faire quatre parties distinctes comme certains pourraient le faire? Parce que là, on a vraiment un entremêlement des chapitres, des personnages. Enfin, on passe vraiment de l'un à l'autre tout le temps. Pourquoi ce choix?
Je pense que c'est la chose que je déteste le plus, c'est l'ennui. Mais en fait, c'est pas que je déteste l'ennui, c'est que j'ai peur que les gens qui vont le lire s'ennuient, trouvent que ça aille pas assez vite, comme ça m'arrive des fois quand dans certaines de mes lectures, dire oh là là, c'est trop lent, ça, je m'ennuie. Vite, allez, je lis en diagonale. Là, bon, j'ai appris ça quand j'étais au collège justement, la lecture rapide, c'était les premiers ordinateurs, on apprenait à lire quelqu'un d'un mot. Et ben des fois, c'est atroce de faire ça. Puis ça respecte pas l'écrivain. Et donc et j'ai peur que les gens s'ennuient. Donc je me dis, ça crée plus de rythme. Et c'était ça mon idée, ouais. Que ça faire du rythme.
Et à plusieurs reprises, vous décrivez la mer. Oui, il y a un passage qui m'a pas mal marqué. Je vais le lire histoire qu'on ait une idée. Ce n'est pas tant le plaisir de nager, de flotter, de glisser qui importe. C'est l'odeur iodée du goémon, le bruissement des vagues, le cri aigu des goélands et cette fraîcheur vivifiante qui fortifie mon corps. Donc, qui est quand même encore relativement au début du roman. Comment on fait pour décrire la mer sans tomber dans le cliché?
La mer, moi, j'ai un lien très fort avec la mer. J'ai fait mes études parce que je suis allée à l'Encieta, là, qui s'appelle maintenant l'Encieta. C'est parce qu'ils avaient une spécialité architecture navale. J'avais juste en tête, oh, il y a marqué naval, c'est dans la mer, ça. Moi, je veux travailler au bord de la mer. J'avais pas pensé que peut-être qu'il y avait des bureaux d'études qui étaient à Paris, dans des tours à la Défense. Bon, heureusement, j'ai réussi à éviter ça. Mais ouais, j'ai un lien fort avec la mer, comme beaucoup de Bretons, je pense. Mais par contre, ce que je décris là, c'est plus la façon dont ma grand-mère parle. Ou parler, parce qu'elle est décédée maintenant, parler de sa relation avec le bain. Elle s'est baignée jusqu'à plus de 90 ans. Et puis, bon, pas tout l'hiver, hein, loin de là, mais juin, juillet, août, septembre, des fois quand même, du côté de Fouesnant, elle est plutôt à 17 ou 16, voilà. Et elle se baignait tous les jours, ben, jusqu'à plus de 90 ans. Et elle avait ce lien-là. C'est ça que j'ai voulu retranscrire. Donc, c'est moi, j'ai un amour fort de la mer, mais pas tant que ça d'être dedans. D'être dessus, ça me suffit bien. J'adore être en kayak sur l'eau ou en voilier, forcément. Et je me suis même mis, pendant le voyage, là, à faire du kitesurf. Mais là, j'ai plus voulu retranscrire son ressenti à elle, de ce qu'elle m'a raconté. Ouais.
Et pareil, quelque chose qui m'a marqué aussi en tant que lectrice, et notamment c'est quand Pénélope parle, donc qui est celle qui vit dans la période la plus ancienne, on peut dire, c'est le vocabulaire qui est employé. C'est-à-dire que c'est un vocabulaire qui correspond parfaitement à l'époque en question. Et je me demandais comment on fait pour écrire avec le vocabulaire adéquat, parce que c'est un vocabulaire qui, aujourd'hui, n'est pas forcément trop utilisé ou alors dans des cercles vraiment particuliers, quoi.
Oui. Ouais, alors ça c'est ça le plus dur, parce que de passer d'une époque à l'autre, faut changer de style. À un moment, je fais même parler une petite fille qui a 10 ans, c'est assez bizarre, parce qu'en fait on rentre comme les acteurs, on rentre dans son personnage, et c'est peut-être pour ça que j'ai besoin d'écrire des personnages féminins, parce que j'ai vraiment besoin de m'identifier. Et j'ai lu aussi beaucoup de choses, je me suis documentée, c'est pour ça que quand on baigne dans la documentation d'après-guerre, bah, on est plus dans cette façon de parler. Je lisais des articles de presse, ça c'est assez évocateur d'une façon de parler. Mais c'est ça le plus dur, C'est ce qui m'a le plus gêné, ce que j'ai trouvé le plus compliqué. Et j'ai beau relire et relire, je me disais, j'espère que je sache que c'est bien de l'époque. Ma grand-mère n'était plus là pour pouvoir me dire si ça correspondait bien. Est-ce qu'on disait comme ça ouais, c'est stressant, ça. La peur de se tromper là-dessus. Peur de faire des anachronismes aussi. Mmh. J'ai failli en faire un grave qui m'a été signalé par mon père. C'est à un moment, j'ai parlé d'un RER à Paris. Et j'étais pas loin. Un an après, il y était, mais là, il y était pas. Donc, oui, attention, parce qu'il y a des puristes qui feraient rapidement la critique. Et ce qui est normal, parce que ça, c'est une erreur grave. Ouais. Mmh. Faut faire attention.
Et je me demandais, parce que donc là, ce qu'on sait avant de lire le livre, c'est que voilà, il y a quatre personnages, quatre lieux, quatre époques. Est-ce que vous pourriez donner, sans spoiler évidemment, peut-être le point commun qui fera que les gens ont envie de lire le livre?
Le point commun des personnages ou le...
Ouais. Ouais.
Je pense que moi, la façon dont je conseille le livre, c'est si on a envie de changer d'air. Alors, quand je l'ai écrit, je l'ai fini au moment du début du confinement. Ça se termine en mars 2020, et c'est là que j'ai fini de l'écrire. Je pensais pas qu'on allait vivre un confinement comme on a vécu. Je pensais pas qu'après l'été, on allait remettre ça, qu'on allait empêcher les étudiants de se retrouver, de faire des fêtes. Je trouve ça, là, ça me démonte complètement. Mais par contre, ce que je voulais, et c'était aussi d'ailleurs le cas dans mon premier livre, c'est que le voyage n'est pas accessible à tout le monde, ou bien pas forcément dans des endroits super reculés, comme notamment ceux où on ne peut accéder qu'en voilier. Évidemment, quasiment personne ne pourra y aller. Donc, ce que je voulais, c'est faire rêver, montrer que les rêves peuvent être accessibles, en y mettant les moyens et en étant motivé, les rêves sont accessibles. D'ailleurs, le premier livre que j'ai auto-édité, j'avais mis un nom de maison d'édition parce que il y a toujours des gens, ils l'achètent pas parce qu'il y a pas de maison d'édition. Alors je dis, si c'est ça le problème, je vais mettre un nom. J'avais mis édition Vivre ses rêves. Ah, ça envoyait du lourd. Il y en a toujours qui me disaient, ah ouais, je connais. Ouais, ouais, c'est ça. Tu risques pas, c'est moi qui l'ai inventé. Mais, donc c'est ça. Le message, c'est vivez vos rêves. Et si c'est pas possible, en lisant, vous allez voyager et vider votre tête, quitter le quotidien qui est plus ou moins marrant pour partir, quoi. Le but de mes livres, c'est de faire partir les gens.
C'est un très beau message. Du coup, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à vous.
Merci aussi.
C'était Sylvie Bizien pour nous parler de son deuxième roman qui vient de sortir et qui s'appelle 4 en 4 temps. Vous pouvez évidemment retrouver son roman en librairie. Et si en plus vous voulez une dédicace et échanger quelques mots avec l'autrice, vous pouvez retrouver Sylvie ce week-end au marché de Noël de Plougastel. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio.
relation ambiguë avec cette ville. Une bagarre incessante balafrée d'indifférence. Je souhaite souvent te quitter lassé de ta silhouette, de tes rythmes effrénés. Mais loin de ton égocentrique planète, je cesse de tourner. Boulevard et précipice d'indifférence immense. Les buildings bâtis dans ma ville, sur mes pupilles, amas de béton qui brille. C'est la silice qui culmine ici. Direction quartier des affaires, prison de verre, où directeur mal de mer gère l'économie bancaire. C'est la finance qui vocifère, il va falloir s'y faire. Je ne saurais oublier des nobles et routines auxquelles on s'accoutume déborder là où tourne. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je maudirai l'odeur de la pluie sur le sol, alcaline et brutale quand le béton somnole. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. En bas du bâtiment, les investisseurs attendus fument. Dernière cigarette, ajustent leur costume. Devant passants ébahis, le bitume sous leur mégot se consume. On consomme dans la métropole, les mets des quatre coins du globe. Bobuna emporté, poulet maffé, tagine face au marché. Mélanger les épices et les cultures et cultiver ce bouillon de futur. Mais gentrification a chassé prolétaire, périphérique univers. Je ne saurais oublier des nobles et routines auxquelles on s'accoutume déborder là où tourne. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je maudirai l'odeur de la pluie sur le sol, alcaline et brutale quand le béton somnole. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je ne saurais oublier l'air pourri du périph, les foules affolées qui tous les jours s'y glissent. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je voudrais oublier tes regards qui piétinent, les visages assoupis des foules anonymes. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je pourrais l'écrire le temps qui se presse, les passants qui passent, l'espace qui m'oppresse. Je rêve d'un endroit où le soir on s'attarde, bien loin du vacarme de ton macadam. Je devrais oublier toutes les années qui filent, dans les métros bondés sous les fumées d'usines. Voici le vague à l'âme de la promiscuité, mais nos vies se laissent dans nos villes voguées. Je ne saurais oublier des nobles et routines auxquelles on s'accoutume déborder là où tourne. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je maudirai l'odeur de la pluie sur le sol, alcaline et brutale quand le béton s'envole. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je serais tenté de voir la misère qui trine devant les vitrines, les mégots qui traînent. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Je voudrais que s'éteigne le soir des lumières, revoir la nuit noire et les étoiles du ciel. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Mais ma ville a son charme, ma ville a son charme. Son charme.
J'aime la panique comme fantôme mince. Faut que la foule se déplace au mince. laisse-moi de mes bails, TJ commence. Super héros comme qui casse. Aïe aïe aïe, on crève tous, mais la zig vieille pas. Pour rouler en merco, faut que Dieu guide mes pages. Grandis, où l'on fait la guerre comme Kratos. Sa violence est gratos. Tu me verras jamais dans vos bastos. Sème la panique comme Vendomas. Faut que la foule se déplace en masse. Laisse-moi de mes bails, TJ commence. Super héros comme qui casse. Aïe aïe aïe, on crève tous, mais la zig vieille pas. Pour rouler en merco, faut que Dieu guide mes pages. Grandis, où l'on fait la guerre comme Kratos. Sa violence est gratos. Tu me verras jamais dans vos bastos. La thune, c'est le nerf de la guerre. Fouillasse dans la mêlée. Les tensions se taisent, font coup de pied au cul à la balise camara. J'quête les caméras, les vrais camarades. Toutes ces ONG, que la mascarade. T'inquiète à chaque coup, y'a une parade. J't'explique, j'transpire, j'veux le hit parade. Faut un max de sous, j'peux en escapade. MC, le mic, les autres campades. Les flous, les femmes, ça rend malade. Les vrais dans la merde, les autres c'est Tony. La street qui en vit, j't'ai pire que Tony. Chaque jour ça peine, y'a rien chantier. Rappelle-toi, j'suis qu'un homme, si tu m'entends chanter, mec. Normal que tu me vois changer, hein. Face au cas, on est tous à tenter, non. Prends des risques quand je reste en lame. Il me faut de la compassion, s'il y a une tête sous ma lame. Les bouches se lâchent, beaucoup se fâchent. S'il y a du son et du cœur, je connais ma tâche. Je pars du rap depuis y'a un écrou. Mais j'ai encore faim, j'aiguise mes crocs. M'en voulez pas, je graille le micro. Où les turbos sont nitro, c'est le topo. J'aime la panique comme Fantomas. Faut que la foule se déplace au masse. Laisse-moi dans mes bails, qui fait comme as. Super héros comme qui casse. Aïe aïe aïe, on crève tous, mais la cité y va. Pour rouler en merco, faut que je guide mes pages. Grandis, où l'on fait la guerre comme Kratos. Sa violence est gratos, tu verras jamais dans vos bastos. J'aime la panique comme Fantomas. Faut que la foule se déplace au masse. Laisse-moi dans mes bails, qui fait comme as. Super héros comme qui casse. Aïe aïe aïe, on crève tous, mais